Bonjour Anicet Le Pors, conseiller d'État honoraire, ancien ministre de la fonction publique et des réformes administratives, est intervenu dans le cadre de l'UMA Café de Nantes sur le thème « La fonction publique ».
Vous avez dit, donc il y a 3-4 ans, nous vivions une période de décomposition sociale qui fait que les gens perdent leur repère.
Oui, c'est tout à fait mon point de vue et la pensée sur ce sujet s'est développée depuis puisque Edgar Morin, notamment, a utilisé le mot qui me convient, de métamorphose. C'est-à-dire, on passe d'une situation qui a duré plus ou moins longtemps, pour nous c'est le XXe siècle, que certains ont considéré comme un siècle prométhéen, où l'homme pensait pouvoir dominer la nature, et puis en même temps forger par sa seule volonté et son intelligence son destin. Et puis les choses se sont écroulées à la fin du siècle et aujourd'hui on est évidemment dans une situation compliquée où il y a beaucoup de souffrance et surtout il y a de l'angoisse parce qu'on ne sait pas quels sont les choix qu'il faut faire et quels sont les repères effectivement. Plus généralement, je crois qu'on peut dire qu'on a quitté une certaine forme de civilisation. Cette civilisation prométhéenne, faite de volontarisme, de totalitarisme aussi, parfois, pour aller vers une situation dont on ignore l'essentiel. Et c'est ça qui nourrit une certaine angoisse. Et c'est pourquoi je partage ce point de vue de la métamorphose. J'avais d'ailleurs écrit il y a 25 ans un livre intitulé « Pendant la mue, le serpent est aveugle ». Pour dire la même chose, à savoir que le serpent, s'il veut grandir, s'il veut passer d'un état à un autre, doit perdre sa peau et en acquérir une autre, dans laquelle il se considérera comme ayant progressé. Mais il y a une phase de transition où, c'est exact, les biologistes le confirment, il est aveugle. Donc il est particulièrement vulnérable, fragile. Eh bien, c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Deuxième petite phrase, en résonance avec ce qui se passe aujourd'hui, vous m'avez dit, il faut reconstruire un système idéologique qui régénérera la politique. Il faut, ça ne dit pas qui, et puis quel serait le système idéologique ?
Bon, il faut prendre conscience, en effet, que nous avons quitté un siècle où il y avait des grandes idéologies, des idéologies messianiques. C'est une expression que j'ai dû utiliser dans les années précédentes aussi. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ben, j'entends que le libéralisme était fondé sur la théorie néoclassique qui a été formulée à la fin du XIXe siècle, qui s'est développée à base d'adaptation constante, car la situation ne collait pas avec les prémices. Et ce système s'est développé aussi avec beaucoup de mathématiques. On a formalisé beaucoup l'idéologie du marché et de la concurrence. Bon. On le connaît bien et il est en crise, on l'a mesuré en 2008 et probablement que d'autres crises surviendront. Il y avait un deuxième système idéologique qui était celui qui supportait la social-démocratie, à savoir sur la base de l'analyse de Keynes en particulier, ce qu'on appelait l'État-providence, c'est-à-dire où un État où on admettait le capitalisme comme régime économique parce qu'il était réputé efficace et on portait tout l'effort politique sur la redistribution. Sauf que maintenant, il est difficile de redistribuer compte tenu de l'accaparement qui est le fait des puissants. Et puis il y avait le marxisme qui fédérait le mouvement communiste. On peut dire que ces trois grands systèmes qui dominaient le débat politique pendant plus d'un siècle, sinon ont disparu, tout au moins se sont fortement affaissés. Et c'est là que l'on peut parler de perte de repères. Alors que faire ? Alors que faire ? Bien, je crois que personne n'est en mesure aujourd'hui d'avoir une théorisation qui satisfasse par sa cohérence et puis sa vigueur. On est sur des décombres. Que faire sur des décombres ? Bien, voir qu'est-ce qui reste d'essentiel. Sur quel pilier la construction à venir pourra s'établir ? Quelles sont les valeurs sûres, en quelque sorte ? En sachant bien qu'il n'y a pas une personnalité aujourd'hui qui est capable de réunir cet héritage, ces héritages, et pour les mettre en cohérence et établir par là un nouveau système qui pourrait être celui du XXIe siècle, quoi qu'il n'y a personne. Alors que faire ? Eh bien, faire comme je fais ce soir à l'Humacafé, c'est-à-dire parler de quelque chose qui apparaît essentiel, à savoir le service public. Le service public m'apparaît être une valeur qui, en tout état de cause, est appelée à se développer. Pourquoi ? Parce qu'elle se développe depuis 8 siècles. 8 siècles. Et que la régression que l'on observe aujourd'hui, à mon avis, ne fait pas disparaître les tendances lourdes de cette évolution de long terme. Il y a d'autres piliers. La laïcité me semble être un de ces piliers. C'est-à-dire que je crois qu'on mesurera le progrès à l'aune des progrès que l'on pourra faire pour promouvoir la laïcité. Il y a aussi les différentes formes de démocratie, et notamment les formes institutionnelles de démocratie. Aujourd'hui, on est en pleine confusion. On a des doutes vis-à-vis de la pérennité de la Ve République. Il faut dire aussi qu'elle a été modifiée 25 fois, la Constitution de la Ve République. Bon, elle s'adapte à tout, mais c'est plutôt par sa vacuité qu'elle s'adapte que par sa force. On dit qu'elle est souple. Oui, elle est souple parce qu'elle n'est plus en état de servir d'ensemble de règles pour gérer la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pourquoi on parle d'un tas de choses, de 6e République, on parle de référendum d'initiative populaire, on évoque la suppression du Sénat, celle du Conseil économique et social. Bref, on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut parce qu'on veut des choses contradictoires. Alors il faut qu'on remette sur le chantier, par exemple, qu'est-ce que c'est que la souveraineté nationale et populaire ? Qu'est-ce que c'est que la démocratie directe ? Est-ce qu'on veut un régime parlementaire ou un régime présidentiel ? Qui doit détenir l'exécutif ? Etc., etc. Il faut refaire le point sur tout ça. Or, ce point n'est pas fait aujourd'hui. Bon. Il y a d'autres thèmes majeurs. C'est par exemple celui de l'immigration, du droit d'asile. Quelle attitude vis-à-vis de l'autre ? Et ceci dans un contexte qui est marqué par rapport au siècle précédent par un double mouvement. Et c'est ça qui, à mon avis, peut être le début d'une recomposition. À la fois, toutes les allégeances au grand système, aux idéologies messianiques. D'autres ont parlé de religion séculière. Et tout cela, à mon avis, veut dire que le citoyen de demain n'est plus prêt à accepter des allégeances de type religieux, même s'il s'agit de partis profondément athées, si on veut, vous voyez. Les gens veulent se redéfinir par rapport à eux-mêmes. Et c'est pourquoi, dans un « Que sais-je » sur la citoyenneté, j'ai parlé de génome de citoyenneté, consistant pour chaque citoyen à se composer toute une série de démarches, d'adhésions. J'ai fait ma liste, moi, de mes adhésions pour constater que j'appartenais à 22 organismes. Et je suis le seul à avoir ce profil-là. Parce que c'est moi qui l'ai choisi, que je suis singulier. Et c'est comme cela que je pense devoir forger ma citoyenneté, d'une part. À l'autre pôle, il y a la mondialisation. Je crois que l'Union européenne est un stade dépassé. Et qu'aujourd'hui, on ne construira du nouveau que sur le terrain mondial. Pas encore pour arriver à une citoyenneté mondiale, je crois que c'est encore très loin, quoi. Et puis il y a tellement de difficultés à surmonter que je ne vois pas que ça puisse se faire dans le court terme. Mais c'est au niveau de la mondialisation qu'il faut situer la création de nouvelles valeurs universelles, par exemple, oui. La mise au point de moyens technologiques qui existent déjà, hein. Internet, le web, tout ça, ça préfigure, si vous voulez, la manière dont les gens vont établir des relations entre eux. Les grandes conventions internationales. J'ai été juge de l'asile pendant 13 ans à la Cour nationale du droit d'asile. On se base sur quoi ? Sur la Convention de Genève de 1951. Et elles se sont multipliées, ces conventions, depuis. Donc on va vers une sorte d'état de droit mondial. Et ça, c'est l'autre pôle. Donc il y a deux pôles. Un pôle de l'individu qui se forge lui-même comme citoyen original Et d'autre part, l'autre pôle, c'est celui de la construction d'une mondialisation qu'on en a du mal à concevoir aujourd'hui, parce qu'il y a des foyers de confrontation un peu partout, et que donc ça semble contredire l'idée de la mondialisation. Ce qui fait qu'on ne parle souvent que de la mondialisation du capital, alors qu'à mon avis, la mondialisation, elle se construit dans tous les domaines. Et alors, effectivement, elle heurte les états de fait existants, et notamment les états de fait religieux, ce qui a pour effet qu'il y a des crispations religieuses, des radicalisations religieuses qui ne peuvent pas accepter ce monde nouveau dont on ne voit que les prémices et qui lui-même est difficile à définir. Alors, entre la mondialisation à un pôle et la citoyenneté ou le citoyen à l'autre pôle, il y a la nation. Et la nation me semble demeurer encore le niveau le plus pertinent d'articulation du général, la mondialisation, au particulier, le citoyen. Et c'est pourquoi je milite, en récusant toutes les appellations de souverainiste, de populiste et tout ça ce sont des mots pour cacher des ignorances. Je pense, moi, que la nationalisation a encore un avenir. Pendant combien de temps, je n'en sais rien. Le temps que le citoyen mûrisse, tel que je l'ai défini, et le temps que la mondialisation prenne un peu plus corps qu'elle ne l'a aujourd'hui.
Quel regard vous portez, vous, par rapport à votre engagement? Vous dites, j'étais en phase à une époque avec l'idéologie que je soutenais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez vous réengager comme...
Je viens de vous dire que j'appartenais à 22 organismes. Oui. C'est pas rien, quand même. Autrement dit, je n'ai pas d'ételé. Au contraire. Alors évidemment, ça ne se présente plus sous la forme, disons le mot, ça ne se présente plus sous la forme d'une église, avec son pape, ses cardinaux, ses évêques, et puis son clergé. J'ai bien connu ça, moi, d'abord dans la religion catholique. J'ai adhéré au christianisme social pendant longtemps, adhéré à un parti qui s'appelait la Jeune République, issu du mouvement de Marc Sangnier, le Sillon. Et donc c'était les chrétiens de gauche qu'on retrouve aujourd'hui dans Témoignages chrétiens, et il y a quelque temps maintenant, ça, je crois que ça s'est édulcoré dans la revue Esprit, par exemple. Vous voyez, donc je connais ça, je connais très bien l'Église catholique, je connais très bien ses dogmes et tout ça. Et je suis passé de la religion catholique au marxisme et au Parti communiste et à la CGT. Et là, j'ai retrouvé, même si j'ai mis un petit temps à m'en rendre compte, une autre Église, avec des similitudes frappantes. On pourrait, au comité central tel que je l'ai connu, identifier le pape, identifier les cardinaux, identifier les évêques, si vous voulez. Autrement dit, ça a fait la démonstration que l'homme n'était pas parvenu à se dégager de cet esprit transcendantal, quoi, qu'il soit catholique ou qu'il soit marxiste, quoi. Et c'est ça le nouveau, c'est d'échapper à cela, c'est de s'affranchir de cela. Voilà. Alors, j'ai oublié un peu la question.
Le regard que vous pouviez avoir par rapport à votre trajectoire.
Donc ce n'est pas une trajectoire où j'abandonne des engagements. D'ailleurs, il faut voir, l'engagement qui était le mien, c'est celui du Parti communiste. Or, le Parti communiste aujourd'hui, j'ose le dire, il n'existe plus. Il n'existe plus parce qu'il était caractérisé par trois fonctions que le professeur Georges Lavaux avait définies, en tout cas deux d'entre elles. Une fonction tribunicienne, c'est-à-dire pouvoir poser la souffrance du peuple et la revendication de la classe ouvrière, une fonction consulaire, c'est-à-dire avoir la possibilité de vivre avec les gens et de prendre des responsabilités d'élus, de militants syndicaux, etc., fonction consulaire. Et moi, j'avais ajouté une fonction théoricienne, car c'est le Parti communiste et c'est le parti le plus théoricien sur la base d'un marxisme qui, au Parti communiste, avait vu des innovations qui n'étaient pas sans intérêt.
Anicé Le Pors, conseiller d'État honoraire, ancien ministre de la fonction publique et des réformes administratives, est l'invité du magazine.
Tout ça s'est écroulé et il ne faut plus recommencer comme cela. Aujourd'hui, ça n'aurait aucun sens que je réadhère au Parti communiste, où je n'ai que des amis, en fait. Vous voyez bien, je suis invité à l'UMA Café, donc je n'ai pas de gens qui me contestent du tout. Sauf que je pense que, avec toute la délicatesse dont il faut faire preuve vis-à-vis de ceux qui sont encore au Parti communiste et qui pensent, j'allais dire, qui croient encore à cette idéologie. Moi, je pense que ça n'existe plus. C'est un peu comme les étoiles, si vous voulez, qui ont disparu, mais dont on continue à recevoir la lumière.
Parlons de fonction publique maintenant.
Je vais faire la liaison avec notre conversation précédente. Je pense toujours que nous sommes dans une phase de décomposition sociale et je pense qu'elle risque d'être longue. Mais on a connu ça dans le passé. Alfred de Musset, en 1836, écrit « On ne sait à chaque pas qu'on fait si on marche sur un débris ou sur une semence ». Ça venait après la monarchie de Juillet, après la Restauration, après la Révolution française. Vous voyez, il y avait eu beaucoup d'événements auparavant. Et là, on était à la veille de la Deuxième République, mais on ne le savait pas, du Second Empire, mais on ne le savait pas. Et puis, les gens étaient perdus, en perte de repères aussi. Bon. Lorsqu'Edgar Morin parle de métamorphose, il dit la même chose. Lorsque moi, je dis « Pendant la nuit, le serpent est aveugle », c'est la même chose. Alors, certains ont décidé, sur la base de ce champ de ruines, que c'était la fin de l'histoire. Francis Fukuyama a écrit un livre, La fin de l'histoire, considérant que le libéralisme était désormais indépassable et que le capitalisme l'avait emporté définitivement. Alors, moi, je crois quand même que ce n'est pas très moderne ni très dynamique de théoriser sur la fin de l'histoire, comme s'il n'y avait plus d'avenir pour l'humanité. Ça me semble être un peu limité. Et quand je regarde le monde tel qu'il est, qu'est-ce que je vois ? Je vois un monde où se multiplient les interdépendances. J'ai parlé tout à l'heure à propos de la mondialisation, par exemple, de l'état de droit mondial qui se construit peu à peu. Avec, on en parle dans l'actualité, la Cour pénale internationale, par exemple, vous voyez ? Même si elle ne fonctionne pas bien. Bon. Donc, des interdépendances, des coopérations. Alors, qui plaisent plus ou moins. Le CETA, il y a des traités un peu partout qui se font, qui se défont, comme avec le Brexit. Mais on est dans une phase où les gens établissent des relations entre eux, des relations de coopération. Les coopérations, malgré tout ce qu'on dit, n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui. Bon. On est aussi dans une époque de solidarité internationale, forte, très forte. Voir ce qui se passe en Méditerranée. Et puis, dès qu'il y a un tsunami quelque part ou un volcan qui se déchaîne, etc., ça émeut l'ensemble de la planète, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et donc, on est dans cette période où les liens se tissent de plus en plus. Et ils se tissent aussi sur une base technologique. Internet, bien sûr. C'est une marque des relations croissantes qui s'établissent entre les hommes. Mais si vous prenez toutes ces formules que je viens d'évoquer en bloc, la coopération, la solidarité, l'interdépendance, etc., en France, ça porte un nom, c'est le service public. Il résume tout ça. Ce qui veut dire que le service public est une valeur et une idée d'avenir. Que le service public, c'est la conception du fonctionnement de la société qui est nourri d'interdépendance électronique ou bien humaine, de coopération, de solidarité. Et cette pétition pour l'environnement avec 2 millions de signatures, c'est sans précédent. Donc le service public a un avenir. Et nous avons donc, dans le livre que j'évoquais tout à l'heure avec Gérard Ascheri, parlé d'âge d'or du service public. Ce n'est pas un acte de foi, c'est basé sur des constats. Donc, je pense, moi, qu'il faut miser sur les tendances lourdes qui ont affirmé au fil des siècles le service public et sur le constat que nous faisons aujourd'hui qui nous prépare à un monde de plus en plus unifié. Le problème étant de savoir comment, mais ça, c'est un problème éternel, comment combiner l'unité et la diversité, comment respecter la diversité tout en renforçant l'unité. C'est vrai pour le monde comme c'est vrai pour le statut de la fonction publique. C'est pour ça qu'on a, quand on a fait le statut de la fonction publique, il y a un titre premier, une première loi qui définit ce qu'est un fonctionnaire et quels sont les, quel est le champ couvert par le statut et quels sont les grands principes. Et puis il y a trois lois ensuite pour décliner la fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, unité et diversité. Eh bien, la même question se pose au niveau mondial. Aujourd'hui, il y a combien de fonctionnaires ? Quand on demande combien il y a de fonctionnaires en France, 5,5 millions. Combien y en avait-il au début du XXe siècle ? 200 000. Combien y en avait-il avant la Deuxième Guerre mondiale ? 1 million. Combien y en avait-il quand Maurice Thorez a fait le statut de 46 ? 2 millions, dont la moitié étaient des contractuels de droit public, mais pas fonctionnaires. Combien y en avait-il quand je suis rentré au gouvernement ? 2 100 000. J'y ai rajouté les communaux, les fonctionnaires territoriaux, les fonctionnaires hospitaliers, les agents publics, puisqu'ils n'étaient pas fonctionnaires. Et puis les agents publics des établissements de recherche. Et quand j'ai quitté le gouvernement, il y en avait 4,6 millions. Et combien aujourd'hui ? 5,5 millions. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Malgré toutes les attaques qui sont portées aux services publics, malgré le dénigrement dont il est l'objet, et dont les fonctionnaires sont l'objet. Il y a une tendance lourde qui fait que ça se développe quand même. Macron a annoncé qu'il allait baisser la dépense publique qui représente aujourd'hui 57% du produit intérieur brut. Il a annoncé qu'il allait réduire de 3 points. Pas beaucoup quand même, hein. C'est une ambition très mesurée. Mais il n'y arrivera pas. Ce qu'il vient de donner pour calmer les gilets jaunes, nous fait dépasser les prélèvements obligatoires pour la première fois de 1 000 milliards. Donc, vous voyez bien, il y a le discours, il y a la parole, et puis il y a la réalité des faits. Il a dit qu'il allait baisser les prélèvements obligatoires d'un point. Alors que les prélèvements obligatoires étaient de 15% avant la Première Guerre mondiale, 30% à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. 45% aujourd'hui. Il a dit qu'il allait baisser de 1%. Et c'est pas un homme pour régler les problèmes de l'autre temps. Il est démuni de ce point de vue-là. Et donc, tout en restant critique sur la manière dont ça se passe, il y a quand même des tendances lourdes qu'aucun gouvernement ne peut remettre en cause. Aucun. C'est ce qui nourrit, pour moi, un optimisme du développement.
La dernière fois que je vous ai aussi posé cette question, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui si vous étiez aux affaires ?
Écoutez, ça dépend du portefeuille ministériel qu'on me confierait. Mais si j'étais président de la République, je crois que il ne faut pas dire n'importe quoi à ce sujet. D'abord, j'affirmerais, moi, la nation française en la situant dans le respect du citoyen, comme je dis tout à l'heure, et aussi en favorisant son expression au niveau mondial. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que le niveau européen est un niveau d'ores et déjà dépassé, très compliqué, exacerbé, conflictuel, si vous voulez. Ce n'est pas là que les choses essentielles vont se passer dans les décennies qui viennent. Je ne crois pas du tout. Bon. Et puis, je reconstruirai un appareil productif. Vous savez que depuis le début des années 80, c'est-à-dire depuis la période où j'étais au gouvernement, le secteur public industriel s'est effondré des trois quarts. Et Renault, Air France, toutes les banques qui étaient publiques ont disparu. EDF pour la distribution, la SNCF, on vient de le voir, etc., etc. C'est un véritable effondrement. La fonction publique a mieux résisté de ce point de vue-là, hein, puisque ses effectifs ont augmenté et que le statut, même attaqué, il est toujours là, quoi. Et qu'il, au contraire, même, il a montré son adaptabilité, même si c'est sous forme de dénaturation. Il a montré que c'est idiot de dire que le statut est rigide. En 30 ans, il a été modifié 225 fois. Comment peut-on dire que le statut des fonctionnaires est rigide alors qu'il a été modifié 225 fois en 30 ans ? Ça n'est jamais fini. Je défendrai le service public dans l'esprit de ce que nous avons fait lorsque François Mitterrand a été élu à la présidence de la République. C'est le début des années 80 est sans doute le moment où le service public a été au plus haut comme existence dans notre pays. Je crois qu'il faut revenir à un service public fort. Il faut par exemple aussi que l'État se donne des moyens d'expertise, sans copier ce qui existait à l'époque. Mais quand même, moi j'ai vécu une période comme économiste où il y avait un commissariat général du plan. Et puis ensuite, il y a eu une opération, on l'appelait la rationalisation des choix budgétaires, qui avait une base scientifique certaine. Pour l'aménagement du territoire, il y avait ce qu'on appelait la DATAR. Il y avait des grands organismes qui étaient le CEA, le CNRS. Ils le sont restés, mais ils n'ont pas l'envergure qu'ils avaient à l'époque. Donc, il y a une référence qui est le début des années 80. Alors, qu'est-ce que ça peut donner aujourd'hui ? On ne copiera pas ce qui existait en 80. Il faut innover. Moi, j'étais responsable des nationalisations au Parti communiste. Je ne proposerai plus aujourd'hui des nationalisations de même type. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je sois cohérent avec moi-même. Dans la mesure où je pense qu'on va vers une mondialisation, il faut que toute expropriation qu'on pourrait réaliser en France ait le souci d'avoir des points d'appui dans les autres pays. C'est-à-dire faire une sorte d'international du service public, si vous voulez. Bon, il y a des services publics dans tous les pays, hein. Plus ou moins importants, plus ou moins conscients qu'ils sont services publics, mais enfin, ça existe. Et la grande question, ce serait de, j'ose pas dire de les fédérer, parce que ça serait ne pas respecter les souverainetés nationales, mais néanmoins de les mettre en coopération, en relation, en cohérence, pour des actions efficaces au niveau mondial, plutôt que des actions concurrentielles et de destruction réciproque.
Vous pensez à quel type de
service ? Écoutez, ils existent déjà, hein, les télécommunications, Internet, l'eau, c'est un grand thème, l'eau. Un service mondial de l'eau, c'est quelque chose qui n'est pas utopique aujourd'hui. En tout cas, il y a des gens qui ont écrit plein de livres sur le service de l'eau. Et puis, si on passait de l'eau aux ressources du sol et du sous-sol, de quel droit, si vous voulez, quelqu'un qui occupe le sol aurait la propriété du sous-sol ? Quel droit ? De quel droit ? Je parle des matières fossiles. Elles ne sont pas à la mode en ce moment. Mais enfin, on pourrait parler de l'agriculture de la même manière. La terre, c'est une propriété indivise, si vous voulez, pour l'ensemble du genre humain. Alors évidemment, au stade actuel, elle est accaparée par les occupants du sol. Mais il n'est pas interdit de penser qu'à travers des accords de coopération, il pourrait y avoir une sorte de souveraineté éminente, collective, sur des grandes zones, sur des continents. Ça, c'est ce qu'il faut construire. Vous savez, si vous mettiez à la place de Philippe le Bel, pour lui, ce n'était pas plus facile d'imaginer où nous en serions aujourd'hui, quoi. Hein. Ou même de Louis XIV. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de concevoir qu'il faut en déduire que ça ne peut pas exister. Non. Vous savez, il n'y a pas si longtemps... Moi, je me souviens de la première fois que j'ai tenu un portable en main. C'est pas vieux, hein. C'était en 1994. Et c'était un outil démesuré qui n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc l'histoire va très vite. Et il faut accepter de ne pas tout savoir aujourd'hui. Seulement, il faut essayer d'identifier, comme je disais tout à l'heure, les piliers sur lesquels on est à peu près sûr que l'on construira. Si on n'est pas capable de dire quelle forme aura l'édifice in fine.
Merci à Anicet et Lepors, conseiller d'État honoraire, ancien ministre de la fonction publique et des réformes administratives, pour sa libre participation à ce programme réalisé dans le cadre de l'UMA Café de Nantes.